France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Marine Le Pen, coupable et hors-jeu, condamnée ce matin pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du RN à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet. Elle est aussi déclarée inéligible immédiatement et pour 5 ans, donc au-delà de la présidentielle de 2027. Elle a quitté le palais de justice précipitamment ce matin. Elle s'exprimera ce soir aux 20h de TF1. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Vous êtes en direct du tribunal pour Inter. Séisme dans la 5ème République.
Oui, et c'est folle de rage que Marine Le Pen s'est littéralement enfuie du tribunal sans un mot pour les journalistes. Elle est désormais au siège du RN avec Jordan Bardella. Réunion d'urgence après le séisme.
A tout de suite pour vos informations. L'un des premiers à réagir il y a quelques minutes, le président du RN, donc Jordan Bardella, qui assure, je cite, que la démocratie française est exécutée par ce jugement. Fin de citation. Nous y reviendrons longuement à partir de 13h30 également avec nos invités et avec vous. 01 45 24 7000 pour vos questions. Pour mesurer les conséquences politiques de cette décision de la justice française, commentée bien au-delà de nos frontières, en Hongrie, en Russie ce matin, les pouvoirs de Viktor Orban et de Vladimir Poutine apportent tous deux leur soutien à Marine Le Pen. À suivre encore, 13h45, notre feuilleton, ils sont la cible de critiques, voire d'agressions depuis des mois. Une semaine avec les agents de l'Office français pour la biodiversité, nous serons dans Lyon. 13h50, c'est la France, après le changement ce week-end. Les mots pour dire l'heure, ce sera avec notre linguiste Mathieu Avanzi. Juste avant 14h, c'est une chanson, le rappeur Youssoupha et le trio Fredericks Goldman Jones. Tout cela dans un 13-14 que nous ne pourrons vous proposer dans son intégralité en raison d'une journée d'action aujourd'hui à Radio France à l'appel de la CGT, Mouvement Social, contre le projet de holding porté dans l'audiovisuel public par le gouvernement. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Marine Le Pen, déclarée coupable ce matin par le tribunal correctionnel de Paris, sa participation à l'élection présidentielle de 2027 compromise. Voilà les principaux enseignements du jugement rendu et détaillé pendant plus de 2 heures par le tribunal. Lecture que Marine Le Pen n'a pas écoutée jusqu'au bout, décidant de quitter la salle d'audience dès l'annonce de son inéligibilité immédiate. Nous allons voir précisément ce que dit ce jugement et quelles en sont les conséquences avec nos spécialistes des services police-justice et politique. D'abord, arrêtons-nous sur ce jugement et sur ses motivations. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Vous l'avez écouté ce matin, Marine Le Pen est comme 8 autres eurodéputés condamnés pour détournement de fonds publics. Je rappelle que c'est l'affaire des assistants parlementaires européens du FN à l'époque, avec un préjudice estimé à plus de 4 millions d'euros. Ils sont quasiment tous déclarés inéligibles immédiatement. Quelles sont les motivations qu'a données ce matin la présidente ?
Alors la présidente a d'abord expliqué longuement sa démarche pendant ces 4 mois délibérés pour déclarer donc tous les députés et assistants parlementaires coupables. Les juges ont ainsi retenu l'absence de preuves de travail de ces assistants parlementaires, mais aussi la chronologie des contrats ou l'activité de ces assistants qui travaillaient en réalité pour le parti. Le tribunal correctionnel a aussi pris le temps de reprendre, comme pour mieux les écarter un à un, les arguments de la défense. Non, il ne s'agit pas d'erreur administrative ou d'incompréhension de règles complexes, a déclaré la présidente, mais bien d'un détournement dans le cadre d'un système mis en place pour alléger les charges du parti. Et cela ne fait pas de doute, a encore asséné le tribunal. Un système au cœur duquel se trouve Marine Le Pen, inscrite avec autorité, détermination dans le système qu'avait instauré son père. Marine Le Pen est donc déclarée coupable en tant qu'auteur principal, mais aussi complice de l'ensemble des autres députés, et donc logiquement condamnée à la ferme, à la peine la plus lourde, qui vient à l'instant d'être prononcée, 2 ans de prison ferme, aménagée sous bracelet électronique, 2 ans avec sursis. Une peine qu'elle n'a donc pas entendue, vous l'avez dit, parce que dès qu'elle a compris qu'elle serait également condamnée à une inéligibilité avec exécution provisoire, elle a quitté la salle d'audience dans un claquement de talons.
Et son parti, le Rassemblement National, est condamné à 2 millions d'euros d'amende, dont 1 million ferme. Et puis il y a, Charlotte, donc cette peine d'inéligibilité pour 5 ans.
Oui, voilà, avec exécution provisoire. C'est là véritablement la notion importante, puisque c'est cette application immédiate qu'avait réclamé le parquet et que le tribunal vient donc de prononcer. Un vent de surprise, littéralement soufflé sur la salle à ce moment-là. Mais alors, pour les juges correctionnels qui affirment avoir pesé toutes les conséquences de cette décision, la nécessité de respecter le caractère proportionné de la sanction, comme l'a rappelé encore vendredi dernier le Conseil constitutionnel, oui, mais il s'agit ici, a souligné la présidente, d'un manquement aux règles de probité, d'un contournement fondements démocratiques, une atteinte grave, durable aux règles du jeu électoral. Ce sont des mots graves qui ont été prononcés ce matin, renforcés par l'attitude de la défense qui revendiquait, selon le tribunal, une impunité totale au mépris de la loi. Dès lors, un risque de récidive objectivement caractérisé, toujours selon le tribunal, qui a donc choisi d'accompagner ces 5 ans d'inéligibilité de son application immédiate.
Voilà, application immédiate, merci Charlotte Piret, pour Marine Le Pen, mais pas pour Louis Alliot. 6 mois ferme et 3 ans d'inéligibilité pour le maire de Perpignan, qui lui va pouvoir conserver son mandat et pouvoir le poursuivre pour l'instant. Bonjour Sarah Guibaudeau.
Bonjour.
Vous étiez au palais de justice ce matin, vous nous avez rejoint, Sarah. Marine Le Pen, condamnée avec inéligibilité immédiate pour 5 ans, nous sommes en 2025, ça nous emmène en 2030. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne pourra pas, quoi qu'il arrive, être candidate à la prochaine élection présidentielle ?
Eh bien, c'est le plus vraisemblable. Marine Le Pen va bien sûr faire appel, mais il faudrait que, 1, la Cour d'appel de Paris vienne infirmer ce jugement, et 2, surtout qu'elle ait le temps de le faire avant 2027. Aujourd'hui, les délais sont de 2 à 3 ans. Pas possible d'être plus précis, mais vous voyez que c'est compliqué. Mmh. Et le tribunal correctionnel de Paris avait bien cela en tête en délibérant, hein, on l'a entendu. La présidente a expliqué comment le tribunal avait raisonné. D'une part, la peine d'inéligibilité n'était finalement pas obligatoire pour la période des faits retenus, qui a été légèrement raccourcie. C'est donc un vrai choix qui a été fait en raison de la gravité des faits, de leur nature systémique, de leur durée, 12 ans, de la qualité d'élu des personnes condamnées et de l'atteinte aux règles, à la confiance publique et aux règles du jeu démocratique. Alors la question de l'exécution provisoire se pose de manière singulière, a reconnu la présidente, qui a résumé les arguments pour et contre. Contre, évidemment, le droit de faire appel, mais pour, il y avait le risque de récidive caractérisée, dit-elle, de la part de prévenus qui ne reconnaissent pas les faits, même s'ils sont avocats comme Marine Le Pen, et qui sont toujours élus ou vont peut-être être candidats. Et pour le tribunal, elle l'a souligné, c'était un risque majeur que soit candidate à la présidentielle une personne condamnée en première instance pour détournement de fonds publics.
Merci Sarah Guibaudeau, je vous garde, vous serez avec nous à partir de 13h30 pour répondre notamment aux auditeurs. Voilà pour le contenu et les premières conséquences de cette décision de justice, jugement attendu non seulement par le Rassemblement National, mais par l'ensemble des forces politiques du pays, car il va y avoir un impact considérable sur notre vie politique. Marine Le Pen était donnée encore ce week-end dans la presse en tête de sondage pour le premier tour d'une élection présidentielle si elle avait lieu en ce moment. Élodie Fauré, on vous retrouve en direct du tribunal. Vous avez donc vu ce matin scène très étonnante, Élodie, vous avez vu passer Marine Le Pen qui a quitté le tribunal sans un mot.
Oui, Marine Le Pen s'est enfuie du tribunal, le mot n'est pas trop fort, véritablement folle de rage. On a vu toutes les caméras, tous les micros se lancer à sa poursuite, un énorme mouvement de foule, mais en vain, personne n'a réussi à la faire réagir immédiatement. La chef de file du RN, qui s'est engouffrée dans une voiture avec ses plus proches collaborateurs, direction le siège du parti, rejoindre Jordan Bardella, qui a évidemment changé ses plans, il devait aller au Parlement européen, il reste évidemment à Paris, Jordan Bardella, qui a déjà commenté sur le réseau X, c'est la démocratie française qui est exécutée, dit-il. Un proche de Marine Le Pen, lui, m'a confié le choc, le séisme, on n'y croyait pas, m'a-t-il redit. On avait écarté l'exécution provisoire, car pour nous, le risque de récidive était tout simplement dingue.
Oui, c'est un véritable coup de tonnerre pour le parti, Élodie.
Et oui, car encore une fois, au RN, ces derniers jours, personne ne semblait vouloir y croire. Alors, dans l'immédiat, que se passe-t-il ? Eh bien, d'abord, une réunion en urgence au siège. Puis, ce soir, les premiers mots de Marine Le Pen aux 20h de TF1. Il y a surtout énormément de questions qui se posent désormais. Est-ce que Jordan Bardella va être propulsé directement candidat à la prochaine présidentielle ? Comme une anticipation, ce sondage de Doxa révélait ce matin qu'il était davantage plébiscité que la chef historique par les militants. Mais saura-t-il endosser le costume et quel rôle jouera Marine Le Pen ? Restera-t-elle dans l'ombre ? Bref, autant de questions, Jérôme, qu'il va falloir poser ces prochaines heures à l'état-major du Rassemblement National.
Merci Élodie Fauré, en direct du tribunal correctionnel de Paris. Ce jugement suscite depuis quelques minutes de très nombreuses réactions. Alors, en France, la France insoumise prend acte à l'instant de la décision et invite à battre le RN dans les urnes. La patronne des Verts, Marine Tondelier, estime que Marine Le Pen doit payer sa peine. Fin de citation. En revanche, Éric Ciotti, allié, lui, du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, se demande, je cite, si la France est encore une démocratie. Et puis, deux réactions remarquées à l'international. Celle du Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui s'exclame « Je suis Marine » en réaction à la condamnation de Marine Le Pen et donc en soutien quand le Kremlin, donc le siège du pouvoir à Moscou, déplore, je cite, « une violation des normes démocratiques ». On reviendra sur ce jugement et sur ses conséquences dans une vingtaine de minutes à partir de 13h30 avec vous. Dans l'actualité de ce lundi également, la Birmanie qui fait face aux violents tremblements de terre de vendredi dernier, bilan très provisoire, au moins 1700 morts. La junte militaire au pouvoir a décrété ce matin une semaine de deuil national, mais c'est encore difficile, notamment pour les ONG occidentales, d'acheminer sur place de l'aide humanitaire. L'actualité, c'est aussi le djihadiste Mehdi Nemmouche qui fait appel de sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Il avait été reconnu coupable d'avoir été le geôlier en Syrie de 4 journalistes français détenus par l'État islamique. Et puis on a appris ce matin également la disparition du réalisateur Yves Boissé, 86 ans, cinéaste très politique de l'attentat 1972 à RAS 1973, son œuvre la plus célèbre, Dupont-la-Joie 1975 avec Jean Carmet, violente charge contre le racisme ordinaire. 13h11 sur Inter, la météo.
La météo avec Utopia, camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Alors qu'on apprend à l'instant, information des affaires étrangères françaises, que 2 Français sont morts dans le séisme qui a donc frappé la Birmanie vendredi matin. Nous venons donc à la météo de ce lundi. Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une journée douce et ensoleillée.
Oui, avec des températures qui gagnent encore quelques degrés. 13 à 18 degrés sur une grande partie nord jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes. 18 à 21 sur le sud-ouest, jusqu'à 22 en Méditerranée. Côté ciel, du soleil. Alors on trouve tout de même plus de nuages sur l'Alsace, la Lorraine, le nord de la Franche-Comté. On n'oublie pas le vent, un vent de nord sensible sur la moitié sud, et encore assez fort même autour de la Méditerranée, hein, 70 km à l'heure pour la Tramontane, 80 pour le Mistral. Demain à nouveau une journée douce, très ensoleillée, plus de nuages sur le nord-est et surtout sur un quart sud-est avec des averses sur la Provence et la Corse, et un peu de neige sur les Alpes et le relief Corse à partir de 1300 mètres.
Élodie Calac, Météo France.
Ali Rebéi signe un nouvel opus de sa série à succès, Dentalis Enquête. Prof de droit à la retraite, Alice Bonneville doit présenter une émission de faits divers. Mais l'animateur qui lui en fait la proposition est retrouvé mort. Accident ou crime ? Tant Alice n'a pas fini de mettre son nez là où il ne faut pas. Meurtre en chaîne, le nouveau roman d'Ali Rebéi aux éditions du Masque.
Bonjour, je m'appelle Boris. Je suis expert solutions énergétiques EDF pour les entreprises. En ce moment, beaucoup de clients me demandent comment réduire l'empreinte CO2 de leur entreprise. Ils savent que c'est important pour la planète et leurs factures. Ils veulent passer à l'action. Alors avec notre offre Décarbone, nous programmons ensemble une visite qui les éclaire sur leur impact CO2 et je leur propose des solutions adaptées à leur entreprise. Mieux pour le climat, mieux pour la facture.
EDF. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter, partenaire de Wheel of Green, du 6 au 8 juin. Le festival est de retour au cœur du Bois de Vincennes à Paris pour 3 jours de fête et d'engagement avec LCD Sound System, Laylo, Charlie XCX, Clara Luciani, Tiakola, Beach House, Polo et Pan, FKA Twins, Lucky Love et bien d'autres encore. Plus de 70 concerts, conférences, stand-up, installations artistiques et une sélection de 60 restaurants 100% végétariens. Wheel of Green, du vendredi 6 au dimanche 8 juin, un festival France Inter.
En raison d'un appel à la grève déposé par la CGT de Radio France contre le projet de holding de l'audiovisuel public, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser. Nous nous retrouvons dans une vingtaine de minutes.
explain. Many rooms to explore, but the doors look the same. I am lost, I can't even remember my name.
Catch you, life will catch you, love will catch you, spirit can catch you, yeah. Lying in reflections, moonlight hits your skin, safe in conversation. Question where I've been. Two bodies on this mattress. Yeah. Save me as it sinks. Yeah. Automatic self-protection. Yeah. My airbags in my hands. And I'm drifting into open sky, and I don't feel so scared. Dreaming with these open eyes. Waves will catch you. Life will catch you, love will catch you, spirit can catch you, yeah. Faith will catch you, friends will catch you, time will catch you, flash will catch you. Ways will catch you, life will catch you, love will catch you, spirit can catch you, yeah. Faith will catch you, friends will catch you, time will catch you, flash will catch you. Traveling for healing. How far will I go?
Spirit, yeah.
It's the way that chain you gave me. That eagle made of gold. Now I'm drifting into open skies. Yeah. And I ain't scared as before, ain't as scared as before. Catch you, life will catch you, love will catch you,
Spirit gon' catch you, yeah. Faith will catch you. Friends will catch you. Time will catch you. Flash will catch you. Ways will catch you. Life will catch you. Love will catch you. Spirit gon' catch you, yeah. Faith will catch you. Friends will catch you. Time will catch you.
Jonathan Livingston, seagull, dry cats and clouds in the free fall. Yeah. I was caught by the wings of my people. Then you picked me up in your two-door. Yeah. Hit the country roads, and you filled me in with the info. Yeah. Stock was rising like tenfold, but you're more concerned with my mental. Yeah. Shutting down is your default, circling for the Chico. Yeah. Sun is out and it feels cold, camera zoom with the ego. Yeah. Find the bench and we recall, memories of the people. Yeah. Reconnect with the real goal, camera zoom with my people.
Our love is underwater. I've cried all over you. Slow down, now we've grown. Let's start new.
J'suis dans un flacon de pur codé. J'trouve un mec clean juste pour conduire. J'ai les adresses, le dur produit. J'retiens la tête des purs condés. Car si on m'embarque, c'est pour OD. Plus j'pop et puis ça les rend fou. Plus j'pop, plus on s'allie en dessous. Gunshot, j'allume et je prends tout. Ram pam pam, ram pam. Plus j'pop et puis ça les rend fou. Plus j'pop, plus on s'allie en dessous. Gunshot, j'allume et je prends tout. Ram pam pam.
6, 7 heures du mat. sur qui je suis. Certains paris sont à l'essai. Toi, tu m'as laissé. On a fini blessé. Pareil que c'est la pression. Certains paris sont à l'essai. Toi, tu m'as laissé. J'encaisse. Et maintenant que je suis connu, tu veux rester. Oh, là, faut me laisser. Et hey, baby, si on se fait du mal, il faut se laisser. Oh, avant qu'un monde ne finisse blessé. J'encaisse. Et maintenant que je suis connu, tu veux rester.
C'est quelque chose en moi. Si tu veux que je parle sincèrement, mon cœur est vêtu de noir et ressort d'un enterrement. On était comme des aimants. En souvenir j'ai des saignements. Je me les ferai toutes si c'est mort. J'ai des glaçons au cou, au poignet. J'suis dans un flacon de pur codé. J'trouve un mec clean juste pour conduire. J'ai les adresses, le dur produit. J'retiens la tête des purs condés. Car si on m'embarque, c'est pour OD. Plus j'pop et plus ça les rend fou. Plus j'pop, plus on me salit en dessous. Qu'un shot, j'allume et je prends tout. Ram pam pam, ram pam. Plus j'pop et puis ça les rend fou. Plus je pop, plus on me salit en dessous. Qu'un shot, j'allume et je prends tout. Ram pam pam, ram pam.
Sur Inter.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Et nous nous retrouvons pour la suite de ce 13-14 après cette véritable bombe qui a explosé ce matin. Le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Paris à l'encontre de Marine Le Pen, mais aussi de 8 autres eurodéputés ou ex-eurodéputés du Front National, l'ex-patronne du RN condamnée pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires employés par le FN, non pas pour travailler pour ces eurodéputés, mais pour le parti. Voilà ce qu'a dit ce matin la présidente du tribunal lors de l'audience. Marine Le Pen déclarée inéligible pour 5 ans et condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet, quand son parti, lui, devra payer 2 millions d'euros d'amende, dont 1 million ferme. Évidemment, les conséquences pour l'élection présidentielle, notamment, sont considérables, mais les réactions et leur violence interrogent et interpellent aussi, il faut bien le dire. C'est la démocratie française qui est exécuté, c'est Jordan Bardella, le patron du RN, qui parle d'exécution. La France est-elle encore une démocratie ? S'interroge de son côté l'allié de Marine Le Pen, Éric Ciotti. De tout cela, nous allons débattre. On va revenir précisément sur ce qui a été dit ce matin par la présidente dans le prochain quart d'heure, jusqu'à 13h45. Vous nous appelez 01 45 24 7000 pour poser toutes vos questions. Avec nous, Sarah Guibaudeau. Rebonjour Sarah.
Bonjour.
Chef du service police-justice d'Inter. Vous étiez ce matin au tribunal pour écouter lecture de ce jugement par la présidente de ce tribunal. Julien Nénier également. Bonjour Julien.
Bonjour Jérôme.
Vous suivez, alors du service politique, mais vous suivez plus précisément l'exécutif. Donc vous nous direz, il n'y a pas de réaction officielle.
Pas de réaction officielle. Pour l'instant, il y a une consigne officielle de Matignon, c'est justement no comment, pas de commentaires, même si évidemment, en off, comme on dit, les langues se délient.
C'est ça, on ne parle évidemment que de ça au gouvernement et dans l'exécutif. À l'Élysée en ce moment, vous nous direz ce qui s'y dit. Nous sommes toujours en ligne avec Élodie Forêt également, en direct du Palais de Justice pour les dernières informations concernant le RN, avec une réunion en cours en ce moment au siège du parti autour de Marine Le Pen. On vous retrouve dans un instant, Élodie, et nous sommes en ligne avec Bruno Cotterès. Bonjour.
Bonjour.
Politologue, chercheur CNRS au CVPOF, enseignant à Sciences Po. Ça fait combien d'années que vous suivez la vie politique française, Bruno Cotterès ?
Un bon paquet d'années, on va dire, mais c'est vrai que là, c'est un événement effectivement à dimension historique, on peut le dire.
Comment est-ce que vous avez réagi juste en apprenant ce matin le jugement ?
C'était un jugement, beaucoup d'observateurs s'attendaient à ce que, au fond, Marine Le Pen soit condamnée, qu'il y ait une peine d'inéligibilité, mais beaucoup avaient fait le pari que le tribunal allait pondérer son jugement, lui laissant la possibilité de candidater à la présidentielle de 2027, parce que ça semblait quand même effectivement quelque chose de très lourd, de très 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 important. Mais c'est vrai que ma première réaction était de me dire qu'on voyait que, eh bien, cette thématique, au fond, de l'honnêteté des dirigeants politiques, des personnalités politiques, est devenue quelque chose de très important. Vous savez que nous mesurons dans des enquêtes d'opinion régulièrement le sentiment de défiance à l'égard de la politique en France. Il est gigantesque, absolument gigantesque. Et c'est vrai que beaucoup ont le sentiment que les élus ne sont pas jugés ou ne fonctionnent pas de la même manière que tout un chacun. Et bien là, le tribunal vient de renvoyer un message très fort de ce point de vue-là.
Élodie Forêt, est-ce qu'on peut dire que le RN a été pris de court et que personne au parti n'avait vu venir cet épilogue ? Là, je voudrais qu'on remonte un petit peu en arrière, c'est-à-dire avant même le début du procès à l'automne dernier.
Oui, déjà, ils avaient été vraiment surpris quand le parquet avait requis l'exécution provisoire. On se rappelle à ce moment-là qu'il y avait eu un vrai choc, comme si les avocats, en fait, du parti et des différents accusés n'avaient pas du tout anticipé ce scénario. Et puis, encore une fois, semaine après semaine, on a eu l'impression, à discuter avec les cadres du RN, que cette menace s'évanouissait un petit peu, que finalement, on nous répétait qu'il fallait pas se mettre dans cette hypothèse, que Marine Le Pen était innocente, que oui, a priori, elle serait condamnée. Ça ne leur faisait pas trop peur, en fait, parce qu'une condamnation, même à l'inéligibilité sans exécution provisoire, ils se disaient, ça aura peu d'impact politique. Finalement, on va réussir à enjamber, on va enjamber 2027, il y aura l'appel, la cassation, tout ça prend énormément de temps, donc on arrivera jusqu'à la présidentielle serein. Et vraiment, encore, il y a quelques jours, vraiment, tous ces gens étaient sereins. Marine Le Pen, elle-même, le confiait à la Tribune dimanche hier, qu'elle ne pensait pas que les juges iraient jusque-là. Ce qui explique vraiment ce matin cette impression de séisme au RN. Marine Le Pen qui s'en va furieuse du tribunal sans adresser un mot aux journalistes. On sent qu'elle n'avait pas vraiment prévu en fait ce qu'elle pouvait dire à la presse dans ce cas-là. Et là, bah, on attend évidemment ce qui va sortir de la réunion d'urgence qui est en cours au siège. Et puis Marine Le Pen prendra aussi la parole ce soir elle-même aux 20h de TF1 pour pouvoir exprimer et donner sa réaction.
On a compris avec cette inéligibilité immédiate et pour 5 ans que la route vers la candidature à l'élection présidentielle de 2027 désormais était très très compliquée, très compromise. Est-ce que ça veut dire, Élodie Forêt, que tout de même la piste Jordan Bardella était un peu préparée, un peu réchauffée? Marine Le Pen a pu en parler aussi publiquement?
Oui, elle en a parlé publiquement à plusieurs reprises, que ça soit au micro ou hors micro. Elle disait on peut écarter un leader politique, mais on n'anéantit pas pour autant ses idées. Et en gros, s'il m'arrive quelque chose, alors elle pensait pas forcément, c'est rigolo, elle pensait pas forcément à la sanction judiciaire. Elle nous disait souvent depuis 2022, vous savez, il peut m'arriver n'importe quoi, je peux passer sous un camion. Il y aura quelqu'un en fait qui pourra prendre le relais. Ce quelqu'un, évidemment, c'est Jordan Bardella, qui est le dauphin qu'elle a désigné. Après, voilà, ça va poser énormément de questions, parce que est-ce que Jordan Bardella aujourd'hui est prêt à endosser ce costume? C'est quand même très différent d'être président du RN comme il l'est et futur candidat à la présidentielle. C'est pas du tout le même rôle, ce n'est pas le même costume. Il faut savoir qu'en interne, Jordan Bardella, même si au début je pense qu'il va pas être contesté parce que c'est le choix de Marine Le Pen en premier lieu, il n'a pas que des gens qui lui vouent une grande amitié. Il a un tout petit noyau autour de lui, mais pas une grande équipe de fidèles. Il n'a pas su pour l'instant se faire un véritable clan. Comment il va réussir à transformer un petit peu cet essai? Comment vont réagir aussi tous les gens autour de lui? Je pense que vraiment, encore une fois, dans un premier temps, il va y avoir un effet de resserrement, je pense, au RN. Tout le monde va être dans une même dynamique de colère immense, de contestation de ce qui se passe. Vous l'avez dit, beaucoup de contestation sur... On lit plusieurs tweets. Est-on encore dans une démocratie? Il y a beaucoup de députés qui tweetent ça en ce moment. Donc on va être dans cet état d'esprit-là. Il faudra voir au fil des mois, en revanche, comment Jordan Bardella arrive à fédérer autour de lui.
Ce n'est pas au juge de décider pour qui doit voter le peuple. Voilà comment réagit Éric Zemmour il y a quelques minutes sur le réseau social X, quand Marine Tondonnier, la patronne des Verts, elle estime que Marine Le Pen doit purger sa peine et payer sa peine. Mais Julien Nenni, pas de réaction officielle pour l'instant d'un ministre, du Premier ministre, encore moins du chef de l'État.
Non, parce que dans l'entourage de François Bayrou, son cabinet a diffusé il y a quelques minutes à tous les cabinets ministériels une consigne très claire, je cite, « Pour le moment, merci de ne pas faire de commentaires ou de messages sur vos réseaux sociaux après les décisions de justice concernant Marine Le Pen. » Donc pour l'instant, cette consigne matignonesque, entre guillemets, est respectée par les ministres officiellement, mais en off, comme on dit dans le jargon. Certaines langues, effectivement, se délient déjà. C'est une surprise absolue, me confiait une ministre juste avant de prendre l'antenne ici. Un autre proche d'Emmanuel Macron, par exemple, se disait, je cite, « hébété par la décision de justice ». Personne ne s'y attendait à cette exécution provisoire, encore moins pour 5 ans, à l'encontre de Marine Le Pen. Un autre ministre me disait, je cite, « c'est le coup d'envoi de 2027. Quand les historiens raconteront cette campagne, ils commenceront par ça, par cette date du 31 mars 2025. » Fin de citation. Alors, ça part en conjoncture aussi, un petit peu, évidemment. Les gens commencent à se projeter sur la suite et les conséquences de ce séisme politique. Un proche du Premier ministre, par exemple, me confiait il y a quelques minutes, il y a quand même deux options aujourd'hui pour que Marine Le Pen soit quand même candidate en 2027. D'abord, qu'un éventuel jugement en appel et un éventuel pourvoi en cassation soit rendu avant la présidentielle et lui soit favorable. Et puis la deuxième option, elle est hautement improbable, mais elle existe, c'est qu'Emmanuel Macron accorde à Marine Le Pen la grâce présidentielle. On en est encore très loin, évidemment, mais ça fait partie des options sur la table. Emmanuel Macron, parlons-en. Pour l'instant, officiellement, son agenda, évidemment, n'a pas été chamboulé. Il, comme si de rien n'était, il poursuit son agenda. Il parlait planification écologique ce matin. Il va discourir sur les océans, puis recevoir pendant 3 jours en visite d'État le roi du Danemark et la reine du Danemark jusqu'à mercredi donc. Mais en coulisses, un conseiller du chef de l'État se disait hébété, je l'ai dit, et disait aussi, eh bien, l'exécution provisoire, c'est des mots assez violents, ne correspond pas à notre droit. Il n'y a qu'en dictature, je cite, qu'on voit ça. Ce n'est pas sain. Il faut battre Marine Le Pen dans les urnes. Fin de citation.
Consigne donc de François Bayrou de garder le silence. Julien Nenni, on va voir si Tous les ministres l'appliquent. Je pense à Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, et à Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui avait dit « Il serait profondément choquant que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter à la présidentielle de 2027 ». Ben, nous y sommes.
Nous y sommes. Alors, précision importante, quand il avait tweeté ce message, Gérald Darmanin n'était pas ministre, il était simple député. C'était juste après les réquisitions du parquet au mois de novembre dernier. Aujourd'hui, il est garde des Sceaux. J'ai évidemment contacté le cabinet de Gérald Darmanin qui applique la consigne « no comment », même si, évidemment, d'autres ministres attendent avec impatience de savoir s'il tiendra cette consigne jusqu'au bout. Parce qu'après ce message qui avait fait polémique à l'automne dernier, évidemment, sa réaction est très attendue.
Patrick est en ligne avec nous de Clermont-Ferrand. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Vous avez une question après ce jugement prononcé ce matin.
Exactement. Donc ce jugement condamne à 2 millions d'amendes, dont 1 million ferme, mais ce jugement a lieu parce qu'il y a eu 4 millions de détournements d'argent public. Alors est-ce qu'on va les obliger à rembourser ces 4 millions d'argent public ?
Plus de 4 millions, c'est le préjudice estimé ce matin par la présidente. Merci Patrick pour cette question que je soumets à Sarah Guibaudot.
Oui, alors je vous avoue que je n'ai pas sous les yeux le la présidente a expliqué très en détail le cas calcul retenu. En fait, il y avait le préjudice allégué par le Parlement européen, 4,5 millions, dont 1 million a déjà été saisi et confisqué. Et puis la présidente, elle a revu un petit peu le calcul de ce qui pouvait être reproché à chacun. Là, je vous avoue que je n'ai pas le détail sous les yeux.
Mais 2 millions d'euros d'amende, dont 1 million ferme, ça veut dire que le parti doit payer ce million.
Mais il en a les moyens, c'est ce qui avait été rappelé à l'audience. Aujourd'hui, sa trésorerie le lui permet.
Question également sur l'application franceinter.fr. Elle est pour vous, Bruno Cotteresse. Marine Le Pen est en tête des sondages pour 2027, nous dit notre auditeur. Est-ce que les électeurs, dans le cas où elle pourrait tout de même être candidate, est-ce que les électeurs voteraient pour une personne condamnée pour vol, nous dit-il ?
Alors, ce qui est certain, c'est que c'est pas un bon argumentaire pour une campagne électorale d'avoir été condamné en justice avec des réquisitions très lourdes, avec un jugement très sévère. Effectivement, ça n'est pas très bon pour une campagne présidentielle. Dans le même temps, voilà, il peut y avoir un autre effet. Je ne doute pas que le Rassemblement national et Marine Le Pen peuvent aussi faire jouer dans l'opinion un ressort qui est cette dimension presque sacrificielle d'une Marine Le Pen qui se serait sacrifié sur l'autel de ses idées et de la difficulté pour le Rassemblement national d'aller vers la conquête du pouvoir. Donc évidemment, le Rassemblement national va sans aucun doute beaucoup communiquer dès ce soir au journal de 20h Marine Le Pen sur cette dimension. Et ça peut, dans certains segments de son électorat, qui, rappelons-le, exprime et ressent un formidable sentiment de colère contre le système politique, contre le système social, ça peut effectivement devenir presque un atout pour Marine Le Pen, en tout cas pour le Rassemblement national. Mais bien évidemment, il y a la contrepartie, c'est que pour d'autres franges d'un électorat potentiel, c'est effectivement, ça ne fait pas très bon effet, une très lourde condamnation en justice.
Et puis, il y a eu des déclarations de Marine Le Pen par le passé sur la tolérance zéro, Julien Lénier.
Oui, c'est une archive qui fait mal, évidemment, au Rassemblement national et à Marine Le Pen en particulier. Pour le contexte, c'est important. On est en avril 2013, en pleine affaire Cahuzac. Marine Le Pen, alors présidente du Front National, est sur le plateau de Public Sénat et prône, je cite, l'inéligibilité à vie pour ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat. Et encore pire pour elle, avec le contexte actuel, Marine Le Pen citait notamment, précisément, le détournement de fonds publics.
L'égalité devant la loi, Sarah Guibaudot, la présidente du tribunal, en a parlé ce matin dans ses motivations.
Oui, c'est un pilier de la démocratie et elle en a tenu compte pour apprécier le caractère proportionné de son jugement. En fait, elle a expliqué que le tribunal avait dû mettre en balance le risque. D'un côté, le risque d'être infirmé en appel, parce qu'il y aura appel, et de l'autre côté, le risque de voir des personnes condamnées être candidates, voire élues, alors que précisément, ils ont été condamnés pour des détournements de fonds publics. La présidente a expliqué que l'effectivité de l'exécution des peines, ça aussi, on l'entend beaucoup dans le discours politique quand même en ce moment, c'était majeur. Et puis, elle a aussi pris en compte le risque de récidive, en tenant compte du système de défense des prévenus du fait qu'ils avaient, selon elle, nié jusqu'aux évidences pendant les deux mois de procès à l'automne dernier, alors même que pour certains, comme Marine Le Pen, ils sont avocats.
Alors, on a parlé des conséquences à plus long terme, 2027, mais il peut aussi y avoir, Élodie Forêt, des conséquences à court terme. On a beaucoup expliqué à l'époque de la censure de Michel Barnier début décembre que cette censure était intervenue de la part des députés du RN parce qu'ils étaient un peu sous le choc du réquisitoire d'une peine d'inéligibilité immédiate. immédiate contre leur patronne. Est-ce que ça peut fragiliser la position de François Bayrou ?
Alors, en sachant qu'à l'époque, ils avaient plutôt nié, eux, de leur côté, faire ça en réaction du réquisitoire. Alors, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui ? Il y a deux choses, parce qu'à la fois, il va y avoir beaucoup de colère, et je l'ai dit, donc ce qui pourrait pousser dans l'idée qu'ils aillent jusqu'à censurer, mais de l'autre, cette inéligibilité fait que Marine Le Pen, s'il y a censure, si le gouvernement tombe, et si on peut imaginer que cela entraîne dans quelques mois une dissolution, elle ne peut plus se représenter pour avoir un mandat de députée. Donc elle assumerait de n'avoir plus rien comme
mandat. Je précise
qu'elle
garde son mandat de députée, malgré cette décision.
Pour l'instant, elle garde son mandat, mais effectivement, voilà, s'il y a une dissolution quand ce sera possible dans quelques mois, elle ne pourra plus se représenter. Donc tout ça va quand même rentrer en considération, même si il y a 2-3 jours, je crois, elle disait que ça ne pèserait pas et que si le RN voulait censurer, eh bien, il censurerait quelle que soit la décision de justice.
Jordan Bardella est le plan B naturel, si je puis dire. Il n'y a pas d'autre tête au RN qui a dans l'esprit peut-être de tenter sa chance.
Non, il n'y a pas d'autre tête au RN aujourd'hui. Après, ce qui peut presque se passer, mais là je fais un peu de politique fiction, c'est qu'il y ait des envies ailleurs, en fait. C'est que, quelque part, Marine Le Pen, elle a cette espèce d'autorité naturelle sur le RN, mais presque, j'allais dire, sur tout un camp. C'est dur d'aller battre Marine Le Pen. Éric Zemmour a essayé en 2022, ça ne lui a pas vraiment réussi au final. Donc, est-ce que ça va aiguiser d'autres appétits ? C'est possible. C'est quelque chose qu'il faudra effectivement voir dans les mois qui vont suivre.
Merci pour votre éclairage, Élodie Forêt, en direct du tribunal. Je remercie également Sarah Guibaudot et Julien Nenny, mais aussi Bruno Cotterès, chercheur CNRS au CVPOF, d'avoir accepté l'invitation de France Inter pour réagir à la condamnation donc de Marine Le Pen ce matin. 13h46 sur Inter. C'est l'heure de notre feuilleton et nous passons cette semaine avec des policiers de l'environnement. Dans le département de l'Yonne, des inspecteurs de l'Office français de la biodiversité qui travaillent pour l'État, qui sont là pour faire respecter la loi, mais qui, depuis plus d'un an, sont dans la tourmente, attaqués par certains élus, dont le Premier ministre lui-même, détestés par certains agriculteurs, voire agressés sur le terrain. Alors nous avons voulu savoir en quoi consistait leur métier et où en était leur relation avec les chasseurs et les agriculteurs, et ces agents ont accepté, exceptionnellement, d'accueillir notre reporter Célia Quiret.
Là, on est tout proche d'Auxerre, on est sur un lieu qui s'appelle La Borde, sur une action de chasse.
Là, vous vous êtes garé tout près de la cabane des chasseurs, hein, c'est ça ?
Oui, c'est là qu'on a vu les véhicules, on avait fait le tour avant, voir s'il y avait des gens postés tout proche de la route, c'est pas le cas. Et donc là, a priori, on a un posté qui est devant nous, donc on va aller le rencontrer. Moi, c'est Jean-Marie Costet, je suis le chef du service départemental de Lyon.
Qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous contrôlez ?
Alors là, notre entrée sur ce genre de contrôle, c'est essentiellement la sécurité à la chasse. En gros, c'est lié surtout à l'arme, hein, parce que le premier danger, c'est l'arme. Et puis, après, là, on va faire une sensibilisation par rapport à tout ce qui est déchets de venaison, par rapport à la peste porcine africaine. Donc, en fait, c'est un virus qui est où les animaux sont porteurs, les animaux sauvages. Et donc, le fait de sensibiliser les gens donc au devenir des déchets en fait, de la chasse est important pour éviter la transmission de la maladie. Le risque d'une maladie comme la peste porcine africaine, c'est justement un risque économique puisque cette maladie est très très contagieuse par contact direct et en fait risque de contaminer les ports d'élevage, donc une filière.
On entend quelques oiseaux.
Là, vous voyez, c'est des traces de sangliers, donc en fait, ils se basent par rapport à ça pour savoir s'ils en ont sur leur territoire.
Donc Olivier, et en fait, moi, je suis agent de l'environnement. Il y a un chasseur juste là derrière. En fait, on voit son gilet orange. Hop. Ouais. Donc voilà. On va aller le contrôler.
Ah oui, ils sont plusieurs. Bonjour.
Bonjour, mademoiselle.
Bonjour, c'est la police de l'environnement. Est-ce que vous pourriez décharger votre arme, s'il vous plaît, et nous présenter votre permis de chasser ?
Permis de chasser, je dois l'avoir.
Ce serait bien.
Tiens, on voit un permis de chasser.
Voilà, ça c'est un permis de chasser de 1976. Ça c'est collector.
Ça veut dire ouais, vous êtes chasseur depuis longtemps. Hein.
C'est ça.
C'est ça, oui.
Bah, celui-là il est bon.
Oui, oui. Ouais, celui-là il est bon.
Bon, ça va là.
C'est parfait.
Vous n'allez pas me frapper alors.
Ah non, j'ai jamais frappé personne.
Donc ça, c'est un contrôle qui se passe bien.
Oui. Dans nos exercices de technique d'intervention police, on a des modules sur comment aborder les gens, comment éviter de faire monter l'agressivité ou plutôt calmer ou ne pas surenchérir. Oui, on est formé pour ça, oui. Merci, monsieur.
Voilà, merci.
Bonne journée.
Merci, pareillement.
Merci.
Et ils comprennent, les chasseurs, dans le dialogue que vous avez avec eux, que voilà, on peut chasser tout en respectant la nature, sans laisser des déchets ou...
Mais dans les mentalités, déjà, ça a évolué. Hein. Il y a 20 ans, tous les chasseurs, quand ils tiraient, ils laissaient leurs étuis de munitions sur le terrain. Maintenant, on ne trouve plus un étui de munitions, donc les chasseurs ont quand même pris conscience que la nature, fallait la préserver. Et donc, maintenant, tout ce genre de problème, on ne le rencontre plus du tout. Tout le monde ramasse ses étuis. Notre métier, c'est de faire respecter les réglementations inhérentes au code de l'environnement, au code forestier, au code rural. Et en fait, si on veut conserver la planète, oui, il y a une utilité. Pour les générations futures, oui, il y a une importance.
Et vous avez l'impression que parfois, cette importance-là de votre métier, elle est parfois oubliée ou elle passe au second plan parfois ? Un peu le lit à votre regard.
Notre feuilleton, premier épisode avec les agents de l'OFB.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. Le lundi à 13h50, nous sommes avec notre linguiste Mathieu Avanzi, spécialiste de nos régions. Mathieu, aujourd'hui, vous explorez les mots pour dire l'heure après le changement d'heure de ce week-end.
Oui, et commençons par une question toute simple. Doit-on dire « il est quelle heure » ou « c'est quelle heure » ? Alors, dans le français qu'on appelle standard, on privilégie la tournure un peu scolaire « quelle heure est-il ?». Mais dans les faits, beaucoup de gens utilisent la formulation plus familière « quelle heure il est ?». De Lyon à Montpellier, cependant, on entend souvent « c'est quelle heure ?» ou « quelle heure c'est ?», avec un petit glissement du « il » vers le « ce ». Une façon plus concrète, plus quotidienne de faire parler le temps. Et alors Jérôme, moi j'ai toujours dit « c'est quelle heure ?» et j'ai longtemps cru que c'était une formule que tout le monde employait. J'ai compris que c'était un régionalisme le jour où une collègue parisienne m'a repris et m'a dit que ce n'était pas du français. Alors j'étais un peu interloqué et je lui ai dit « ah bon ?» parce que moi j'ai toujours dit comme ça. Mais intérieurement, je pensais surtout « mais qu'est-ce qu'elle est à cheval sur la grammaire ? C'est fou pour une linguiste
!» Pour dire l'heure elle-même aussi, Mathieu, les formules changent.
Ah oui, et c'est là que les petits détails deviennent vraiment intéressants. Prenons le fameux « moins le quart ». Dans le standard français, on dit qu'il est 3 heures moins le quart. Mais dans certaines régions, notamment en Rhône-Alpes, on entend aussi « moins quart », sans le « le ». Une petite ellipse qui surprend parfois, mais qui est parfaitement naturelle pour de nombreux locuteurs. Et si on pousse un peu plus loin l'observation, on tombe sur une autre petite bizarrerie, la fameuse question du « et ». On dit midi et quart, midi et demi, mais midi 20, midi 10, midi 25, sans le « et ».
Oui.
Les dictionnaires nous expliquent que la conjonction « et » s'emploie avec les fractions d'heure, quart, demi, mais pas avec les minutes pleines. Une règle un peu bancale, vous en conviendrez. Du coup, on comprend mieux l'origine de certaines variantes régionales. Dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, on entend souvent dire qu'il est midi quart, sans le « et », et par analogie avec midi 20. Et dans le Sud-Est, c'est parfois l'inverse, on dit midi et 20.
Et 20, oui.
Pour respecter le parallélisme avec midi et quart. En fait, il y a deux logiques qui s'affrontent, celle de la grammaire et celle du bon sens des locuteurs qui cherchent simplement à harmoniser les structures et corriger les symétries. Alors, bien sûr, certains grinceraient des dents devant ces écarts, mais vous me connaissez, Jérôme, pour moi, ce ne sont pas des fautes, ce sont simplement des façons de dire différentes qui font vivre la langue, parce que comme toujours, ça dépend d'où on vient.
On peut parler aussi de l'heure de midi ?
Bien sûr, là aussi, les variantes régionales sont nombreuses. En France, on parle de la pause de midi ou du moment entre midi et deux. Mais ailleurs, les formules changent. À Lille, on parle du temps de midi. Dans l'est de la France, on
entre midi.
Entre midi, ouais. Exactement. À Valenciennes, entre les midis et en Normandie, à l'heure du midi. On entend aussi entre midi en Champagne-Ardenne et en Lorraine. Bref, vous l'aurez compris, midi n'est pas qu'une heure, c'est une mosaïque linguistique à lui tout seul.
Merci Mathieu Avanzi, et pour vous faire plaisir, c'est quelle heure ? Eh bien c'est 13h53 de C'est la France. Ah, c'est une chanson, ça vous fait rire. C'est le rappeur Youssoupha qu'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier.
Youssoupha qui vient de faire paraître Amour Suprême, un 7e album qu'il joue en ce moment en tournée. Il sera notamment jeudi à Mulhouse, vendredi à Besançon, puis le 12 juin à l'Olympia. Et avec lui, nous avons parlé d'un titre de Jean-Jacques Goldman, né en 17 à Leidenstadt, titre qu'il interprète avec le gallois Michael Jones et l'américaine Carole Fredericks. Cette chanson, Youssoupha l'a découverte adolescent. Il l'apprécie pour de multiples raisons, pas seulement musicales.
La première accroche, c'est parce qu'elle est belle, parce que c'est une belle chanson. Puis plus tard, c'est l'axe du thème que je trouvais fort, parce que j'aimais la chanson, mais je comprenais pas vraiment ce dont ça parlait, parce que les références m'échappaient, c'était l'Allemagne nazie, c'est l'apartheid sud-africain, ou alors la guerre civile en Irlande, etc. Et j'ai compris de quoi ça parlait, j'ai trouvé ça hyper touchant. Et puis plus tard, j'ai compris par rapport à la personnalité des interprètes, c'est-à-dire Carole Fredericks, Michael Jones et Jean-Jacques Goldman, que c'était pas anodin ce qu'ils évoquaient par rapport à leur état, justement, son identité britannique à Michael Jones, ses origines juives à Jean-Jacques Goldman et son identité noire à Carole Fredericks, qu'au fait, leurs lyrics, comme on dit dans le rap, leurs paroles, comme on dit dans la chanson, avaient une résonance qui était encore plus fascinante que juste si jamais c'était des randoms qui avaient interprété ce titre. Et en fait, voilà, c'est pas seulement le thème, c'est l'accès au thème que je trouvais fascinant.
Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Bercé d'humiliation, de haine, d'ignorance, nourri de rêves de revanche.
C'est en 1990 qu'est sortie cette chanson, née en 17 à Leidenstadt, Frédéric, sur le premier album enregistré par ce trio, Frédéric Goldman Jones.
Leidenstadt étant le nom d'une ville imaginaire, littéralement ça signifie « ville des souffrances ». Et Youssoupha reste aujourd'hui encore impressionné par la puissance de ce texte.
Pour de la chanson française, qui surtout dans les années 90, commence à avoir des thèmes un peu faciles, un peu gnangnans, qui prennent plus beaucoup de risques, d'un chanteur populaire comme Jean-Jacques Goldman, c'est quand même assez couillu. C'est quand même assez couillu de se poser comme ça la question, en tant que juif, si j'avais été allemand. Waouh, la punchline, elle est simple, mais ça t'interroge.
Vous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous demander ce que vous seriez devenu si vous étiez né à un autre endroit ?
Oui, moi je suis un jeune garçon de Kinshasa et j'ai imaginé ça. Du coup, ça m'a appris aussi à analyser, à interroger ma version de l'histoire. Ma version de l'histoire noire, ma version de l'histoire africaine, ma version de l'histoire de môme de banlieue quand j'étais arrivé en France, ma version de l'histoire aussi des privilèges, parce que j'ai eu les privilèges, par exemple, d'aller à l'école en Europe, là où j'ai grandi. Il y a plein de gens qui rêvaient d'aller en Europe. Et à travers cette chanson, moi-même étant auteur, quand j'écris pour les autres ou quand j'écris pour moi, ça m'arrive des fois d'avoir cette figure de style que moi-même j'appelle le malaise poétique. C'est-à-dire d'évoquer quelque chose qui met un malaise, mais qui poétiquement nous interroge. Et ça me vient de cette chanson-là, née en 17, Jean-Jacques Goldman.
Est-ce que c'est une chanson que vous avez beaucoup écoutée quand vous l'avez découverte vers 13-14 ans ?
J'ai beaucoup écouté à l'époque où ça passait à la radio, parce que c'était un titre populaire. Quand je suis devenu artiste et que j'ai réalisé l'axe du thème, ça m'avait fait péter un câble et je vous avoue, je l'ai moins écouté parce que j'étais jaloux. J'étais jaloux de cette chanson. Et donc je l'écoutais doucement parce que en fait, je la trouve sublime et j'aurais aimé avoir cette idée-là et trouver ces mots-là.
Sur les ruines d'un champ de bataille.
C'est une immense chanson. C'est l'une des 5 chansons que je préfère au monde et continue à m'inspirer. Et puis j'en découvre encore des recoins aujourd'hui.
Et qu'on nous épargne à toi et moi si possible très longtemps. D'avoir à choisir.
En 17 à Leidenstadt, Frédéric Goldman Jones. C'était donc Frédéric, le choix du rappeur Youssoupha.
Youssoupha en tournée actuellement avec Amour Suprême, son nouvel album.
Merci Frédéric.